L'État contre la critique, l'État critique.
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 En mars 2020, face à l'impossibilité d'être ensemble, de se réunir en personne, Coyote a initié un groupe de lecture à distance, un espace d'échange sur l'état critique dans lequel la situation sanitaire nous a plongés individuellement et collectivement. Cette situation a en effet accéléré le dévoilement de l'état critique de la forme « État », prise au piège depuis 2 décennies dans des formes renouvelées de fascisme politique. Notre remède à cet état premier d'hébétement et d'impuissance a été de lire et de trouver dans ces lectures des perspectives de fuite qui font penser que d'autres modes de gouvernance en Occident sont à imaginer sur la base d'exemples historiques ou contemporains et parallèles.
Axum, it's like a word, it's like a portmanteau word, you know. Today it's a bank holiday in Greece. It's the celebration of the uprising of the students of the Polytechnic School in 73 against the dictatorship. It's funny because it resonates with your calendar of demonstrations.
Yeah, today it's really a crazy day. There are lots of meetings of yellow vests first. Then there is demonstration against the laws they were preparing last winter for university and research. So this law, you know, including that research, we have to respond to the values of refugees. And then there is this demonstration against the security law that we are discussing at the assembly this afternoon. And it's really awful because actually we won't be able to diffuse, broadcast and share video and images of cops.
Les conditions de confinement imposées par les différents gouvernements en Europe pour contenir l'expansion du virus Covid-19 ont révélé leur paradigme plus qu'incertain. Le confinement est utilisé habituellement dans l'élevage industriel pour empêcher la propagation d'une maladie ou remonte encore à des temps moyenâgeux, à l'époque de Boccaccio. Ces conditions ont donc révélé de manière conjointe l'autoritarisme totalitaire et l'impuissance des gouvernements à différents niveaux d'intervention. De quelle providence l'État peut-il concrètement se prévaloir quand il échoue à protéger et qu'il réprime de façon continue?
Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça,
minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
Ces conditions nouvelles ont ainsi fait grandir en nous un questionnement sur l'État. Non pas sur ses modalités actuelles, ses rouages, mais radicalement sur la nécessité de son existence en tant que construit, situé historiquement et géographiquement. Il ne s'agit pas de nier son existence, il est bien trop là, institué en nous, chez nous, mais de le dénaturaliser, d'élaborer un programme de désintoxication de la forme étatique en somme. Ce qui intéresse Coyote, ce sont les points aveugles et les angles morts qui défient cette présence toute puissante. Ce sont ceux qui rompent un contrat social injuste, injustifié, injustifiable, ceux qui n'y ont jamais souscrit. Les Indiens d'Amazonie, les sauvages, qu'ont étudié les ethnologues Pierre Clastre puis Eduardo Viveros de Castro, les peuples de la marge, des Edge People, comme les nomme Tony Judd. Ces barbares venus d'ailleurs, les peuples sans trace, dont parle l'anthropologue de l'anarchie James C. Scott, ou encore les sorcières d'Isabelle Stengers et Philippe Pignard.
Uma professora perguntou para mim, né? Você é indígena, mas por que você mora no meio da cidade, né? Mas não foi a gente que invadiu a cidade, né? A cidade foi invadindo nossas terras, diminuindo com as nossas terras sagradas, acabando com a nossa mata, poluindo nossos rios. Então, que direito a pessoa pode ter de falar que a gente é invasor, né? Sendo que a gente sempre existiu aqui. E a gente está nessa resistência toda há 517 anos. Ah.
Os mano firmeza já vem chegando. Salve, salve no corre, na correria. Pode pá, é nós que tá. Pode crer, estamos aqui no ar, representando no rap o dia a dia de batalha do índio guerreiro. Atrás da paz, verdade a minha tem. Com a fé de Deus na mente, buraqueiro não desiste. Direto da aldeia Jaraguá, na responsa pra somar. Nossa voz está no ar. Aqui mais um rapaz, humilde sobrevivente. Eu manjo mesmo no som. A minha rima está aqui no meu rap. Eu vou seguindo meu caminho até o fim. Muitas vezes já caí, meus parceiros me levantam, me levanto e mais forte fico. Assim que é, truta. No mundão, a batalha é que não falta. O meu coração bate forte na missão de conseguir demarcação. Pois então, eu não quero desandar. Acredito no que sou. Em cima vou rimando, vou gritando. Chega de corrupção. Xondaros, guerreiros, herdeiros da aldeia. Sou índio Guarani. Eu rimo, vou mandando em Guarani. Escuta aí, Konomi, Gué, Cunha, Tengue, Curingue, Iputunha, Ojerero, Ike, Opu, Ojerodi, Bora, Iomunhendo, Tatati, Narekote, Ipame, Rapute, Iomobe, Umuru. Nós tá de pé, firme e forte assim que é. Se liga na fita, é hip hop, Guarani nessa quebrada. Mas Guarani chegou, Tecoa representou, satisfação total. Eu, Kagu, Opamba, é que é natural. Oremba, é Tchundaru, Kuiru, Noma, é Orere, Komaru, Tchauka. O dia de sol na zona oeste, Jaraguá, Tecoa. Os manos e as minas no campo jogando bola, criançada brincando com um sorriso no rosto, sendo feliz assim que é no meu olhar. Cherechapu, aecha, Tecoa é bom lugar. Mas então, por que não demarcar prazer? Sou mano Glover, sobrevivendo inferno. E vou mandando o meu som pros irmãos lá do fundão. Agora é nós, barra pesada da aldeia Jaraguá. Com total confiança, pode crer, os Guarani, com vocês pra somar.
Donc on s'est appuyé sur cette méthode de l'arpentage. Elle nous a intéressés parce qu'elle vient du mouvement ouvrier de la fin du 19e siècle. Les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale s'en sont réemparés. Et après, c'est devenu aussi une technique depuis les années 50, vraiment utilisée par l'éducation populaire. C'est une forme d'appropriation collective d'une œuvre qui désacralise complètement l'objet livre, étant donné que le principe, c'est même... On arrive, et pour découvrir un livre, en fait, on va le déchirer en parts égales du nombre de personnes qui participent à la séance. Et donc, tu casses l'objet, peu importe les chapitres, la construction, mais tu te répartis en tout cas l'ouvrage. Enfin, c'est plutôt normalement des lectures silencieuses ou en petits groupes que tu fais. Et donc, tu vas retirer des points qui te semblent importants. Et après, tu les partages avec l'ensemble du groupe. Et c'est comme ça que tu parcours l'intégralité de l'œuvre. Ce qui nous intéressait aussi, c'est que c'est pas une manière de... Enfin voilà, c'est une forme, bien sûr, qui n'est pas scolaire. C'est pas une manière de faire un résumé savant ou une synthèse parfaite de l'œuvre, mais plutôt d'essayer d'en retirer des objets qui font écho par rapport à une pratique, des interrogations. Donc là, ça a fonctionné aussi bien pour nous dans le fil un peu de cette semaine critique autour de l'État. Et donc, nous, là où on travaille un peu différemment, c'est qu'effectivement, là, on se retrouve à revisiter des ouvrages qu'on a lus ensemble durant le premier confinement du printemps. Donc, c'est des ouvrages qu'on connaît déjà. Et là, nous, notre exercice, c'est qu'on prend plus un morceau de l'œuvre qu'on lit collectivement, ensemble, à voix haute. Et en revanche, on se garde cet exercice qui est de retirer trois choses qui font sens, deux choses avec lesquelles on n'est pas d'accord et une chose qui nous semble vraiment importante.
Pode crer, os Guarani, com vocês pra somar. Pode crer, os Guarani, com vocês pra somar.
O índio é forte e sobrevive jogando a própria sorte. O índio é forte e sobrevive jogando a própria sorte. Como pode se terra pra morar, se rio para pescar? O juruá desmata, a mata e mata. O lembrará, mas verá MC e os Guarani. Não cansa de lutar e seguiremos assim até a morte. O índio é forte.
C'est la révolution politique, c'est cette apparition mystérieuse, irréversible, mortelle pour les sociétés primitives, ce que nous connaissons sous le nom d'État. L'autorité de la hiérarchie, la relation de pouvoir, l'assujettissement des hommes, l'État. La société primitive, première société d'abondance, ne laisse aucune place au désir de surabondance. Les sociétés primitives sont des sociétés sans État parce que l'État y est impossible.
Et pourtant, tous les peuples civilisés ont d'abord été sauvages. Qu'est-ce qui a fait que l'État a cessé d'être impossible? Pourquoi les peuples cessèrent-ils d'être sauvages? Quel formidable événement, quelle révolution laissèrent surgir la figure du despote, de celui qui commande à ceux qui obéissent? D'où vient le pouvoir politique? Mystère, provisoire peut-être, de l'origine. S'il paraît encore impossible de déterminer les conditions d'apparition de l'État, on peut en revanche préciser les conditions de sa non-apparition.
Kua puma uiko peteen chondaro Pultunia won uma enja chitatare Pamenja purai janderu etepe A luta não para, a luta não para Kua puma uiko peteen chondaro Pultunia won uma enja chitatare Pamenja purai janderu etepe A luta não para, a luta não para.
C'est dire que tout groupe humain parvient par force à exercer le minimum nécessaire de domination sur le milieu qu'il occupe. On n'a jusqu'à présent connaissance d'aucune société qui se serait établie, sauf par contraintes et violences extérieures, sur un espace naturel impossible à maîtriser. Ou bien elle disparaît, ou bien elle change de territoire. Ce qui surprend chez les Esquimaux ou chez les Australiens, c'est justement la richesse, l'imagination et la finesse de l'activité technique, la puissance d'invention et d'efficacité que démontre l'outillage utilisé par ces peuples.
Il n'y a donc pas de roi dans la tribu, mais un chef, qui n'est pas un chef d'État. Qu'est-ce que cela signifie ? Simplement que le chef ne dispose d'aucune autorité, d'aucun pouvoir de coercition, d'aucun moyen de donner un ordre. Le chef n'est pas un commandant. Les gens de la tribu n'ont aucun devoir d'obéissance. L'espace de la chefferie n'est pas le lieu du pouvoir. Et la figure bien mal nommée du chef, sauvage, ne préfigure en rien celle d'un futur despote. Ce n'est certainement pas de la chefferie primitive que peut se déduire l'appareil étatique en général. En quoi le chef de la tribu ne préfigure-t-il pas le chef d'État? Ce qu'il s'agit de penser, c'est un chef sans pouvoir, une institution, la chefferie, étrangère à son essence, l'autorité. Les fonctions du chef, telles qu'elles ont été analysées ci-dessus, montrent bien qu'il ne s'agit pas de fonctions d'autorité. Essentiellement chargées de résorber les conflits qui peuvent surgir entre individus, familles, lignages, etc., il ne dispose pour établir l'ordre et la concorde que du seul prestige que lui reconnaît la société. Mais prestige ne signifie pas pouvoir, bien entendu. Et les moyens que détient le chef pour accomplir sa tâche de pacificateur se limitent à l'usage exclusif de la parole. Non pas même pour arbitrer entre les parties opposées, car le chef n'est pas un juge. Il ne peut se permettre de prendre parti pour l'un ou l'autre. Mais pour, armé de sa seule éloquence, tenter de persuader les gens qu'il faut s'apaiser, renoncer aux injures, imiter les ancêtres qui ont toujours vécu dans la bonne entente. Entreprise jamais assurée de la réussite, pari chaque fois incertain, car la parole du chef n'a pas force de loi. Que l'effort de persuasion échoue, alors le conflit risquait de se résoudre dans la violence, et le prestige du chef peut fort bien n'y point survivre, puisqu'il a fait la preuve de son impuissance à réaliser ce que l'on attend de lui. À quoi la tribu estime-t-elle que tel homme est digne d'être un chef? En fin de compte, à sa seule compétence technique, dons oratoires, savoir-faire comme chasseur, capacité de coordonner les activités guerrières, offensives ou défensives. En aucune manière, la société ne laisse le chef passer au-delà de cette limite technique. Elle ne laisse jamais une supériorité technique se transformer en autorité politique. Le chef est au service de la société. C'est la société en elle-même, lieu véritable du pouvoir, qui exerce comme telle son autorité sur le chef. C'est pourquoi il est impossible pour le chef de renverser ce rapport à son profit, de mettre la société à son propre service, d'exercer sur la tribu ce que l'on nomme le pouvoir. Jamais la société primitive ne tolérera que son chef se transforme en despote.
Aquele de trem.
Commencer par le troisième chapitre de politique de multiplicité per classe face à l'État, ou bien j'adore évoquer le nom en portugais, o intempestivo ainda. La réponse des classes consiste plus ou moins à dire que le contrôle social, ou plutôt les pouvoirs politiques, ne s'exerce pas sur l'individu, mais sur un individu, le chef, qui est individualisé justement pour que le corps social persiste indivis, en relation avec lui-même. Il embauche ensuite la thèse, également mentionnée dans les mythes et rites des Indiens d'Amérique du Sud, selon lesquels la société primitive inhibe l'État au moyen de l'exclusion métaphysique de sa propre cause et origine. En renvoyant les deux à la sphère du monde mythique primordial, celui qui est totalement hors du contrôle humain et qui, dans cette mesure, ne peut être approprié par une fraction de la société de façon à conventionnaliser les inégalités. En plaçant son fondement hors d'elle-même, la société devient nature.
La société contre l'État est effectivement contre l'individu parce que l'individu en tant que sujet est un produit et un corrélat de l'État. L'État a besoin de l'individu et l'individu requiert l'État. L'autoséparation créatrice de l'État crée et sépare également les sujets ou les individus, monadiques ou collectifs, en même temps que l'État s'offre lui-même comme modèle pour ceci. L'État, c'est le moi. On va s'arrêter et dégager ces idées. Dégager ensemble, pas les dégager chacun de notre côté. En fait, on est comme un corps, c'est comme un corps, un seul corps, mais collectif.
Mais pour moi, il y a des idées qui me semblent fortes. Cette idée de la société qui devient nature. Et après, par rapport à vivre, ça fait beaucoup de sens, non ? Une espèce de naturalisation de l'horizon étatique. Mm-hmm. C'est quand il parle de Roy Wagner, en fait. La société devient nature. Donc, c'est pas l'État, mais la société en soi-même. La question de base de Pierre Clastre dans la société contre l'État est en fait dans plusieurs de ses essais, et c'est quelque chose de très important pour nous, je pense, c'est justement d'essayer de s'interroger sur quelle est l'origine de l'État, comment il survient, à partir de quels besoins, à partir de quel contexte, ou comment. Cette question qui devient presque énigmatique dans son œuvre, aussi que fantasmagorique, non, elle lui hante. L'impression que j'ai, c'est que Viveiros est aussi en train d'essayer de, pas de répondre à sa question, mais de répondre à partir de l'œuvre de Clastre à cette question de l'origine.
Oui, oui.
Quelle est l'origine de l'État ? Quand il est en train de parler de Clastre, il dit dans l'article de Clastre qui dit « Mythes et rites des sociétés d'Amérique du Sud », les mythes contre l'État en somme, pour un peu synthétiser ce qu'il est en train de dire avant, c'est la manière que je comprends. Les sociétés modernes vont placer les mythes comme quelque chose presque de transcendantal et extérieur à l'organisation d'une société primitive. Il est déjà en train de retirer quelque chose qui, je pense, qui est absolument différente avec un D majuscule pour les sociétés dites primitives, qui n'est pas justement la question de la transcendance, mais la question de l'immanence. Il y a une immanence continuelle des forces qui gouvernent au sens profond cette société. Donc la relation avec les pouvoirs, elle est fondée sur un principe mythique, sur les mythes. Et dans ce cas, dans cette défense de l'anthropologie politique, littéralement, quand il arrive à cette proposition, les mythes contre l'État, c'est presque les mythes comme un antidote, comme une contre-figure, comme une autre face de cette organisation, de cette forme qu'on appelle État. Dans la philosophie occidentale, c'est à partir d'un principe, particulièrement en France, d'un principe de laïcité, d'un principe de « il y a quelque chose de rationnel » dans la fondation d'un État moderne, qui ne se fonde pas sur un mythe, parce que c'est comme si les mythes étaient liés à une question de foi, non, de la foi, de la transcendance, de quelque
ou
chose...
de croyance.
Oui, des croyances.
De croyances aussi, oui. Ouais.
Dans une vraie société contre l'État, chaque individu apparaît, disions-nous, comme un micro-État, insoumettable, insoumis, une entité pleinement souveraine qui ne se laisse remplacer par aucune autre entité.
Moi, j'ai envie d'entendre les Yanomami parler de même.
Oui.
Ça, en fait, c'est une pensée qui ne parle pas de son, qui ne parle pas à son sujet, mais qui parle à l'université, à l'académie. C'est ouais, c'est un transmetteur, mais c'est mais à qui s'adresse-t-il, quoi?
Les sauvages veulent la multiplication du multiple. Le temps serait enfin venu de constater, non sans gêne, que nous avons peut-être été complices du marché dans sa lutte pour diminuer et subjuguer l'État, l'ultime barrière protectrice des droits du peuple contre la furie du capital. C'est une discussion complexe que je n'ai ni l'espace ni réellement les compétences d'approfondir. Mais je ne peux m'empêcher de dire que je n'y crois pas, même un peu. L'idée selon laquelle le capitalisme globalisé a entraîné une diminution du pouvoir de l'État me paraît invraisemblable. Hormis le fait qu'il a fallu et qu'il faut toujours un gigantesque appareil régulateur et interventionniste administré par l'État pour produire la dérégulation de l'économie, ainsi que pour soutenir politiquement et militairement un marché libre qui n'est ni l'un ni l'autre. Mais voyons l'appareil juridico-policier des États nationaux apporter son soutien prévenant aux efforts des entreprises transnationales pour assiéger définitivement les commons de la noosphère et écraser avec la plus grande violence la moindre résistance à la bioéconomie politique du capital.
Justement, les exemples qu'ils donnent nous paraissent totalement primitifs par rapport à ce qu'on vit maintenant, quoi. Comme si on était vraiment face à une amplification extrême de ce qu'il entrevoit ou ce qu'il entreaperçoit dans la fascisation du libéralisme. Ce qui est drôle, et c'est cet écart entre l'écriture de ce texte de 2010 et aujourd'hui, c'est qu'il est très prudent, très précautionneux dans cette idée, alors qu'on est clairement jusqu'au cou même. C'est-à-dire que ça semble être un paradoxe à son époque de parler de la fascisation du libéralisme.
διώξεις το κακό που τρώει την ψυχή σου. Γιατί δεν φτάνει μοναχά να γκρεμίζεις. Ο κακός σου εαυτός καραβουκί. Σκότωσε το πάνσο που έχεις μέσα σου. Σκότωσε το πάνσο πριν είναι αργά. Σκότωσε το πάνσο που έχεις μέσα σου. Σκότωσε το πάνσο πριν είναι αργά. Αργά.
Mais il ne faut pas se faire d'illusions. La machine d'État dans toutes les sociétés occidentales devient de plus en plus étatique. C'est-à-dire qu'elle va devenir de plus en plus autoritaire, wow, avec la profonde la majorité. La machine étatique va aboutir à une espèce de fascisme, par un fascisme de parti, mais un fascisme intérieur. Rappelons alors les propos de Tony Judd. L'État, loin de disparaître, est sur le point d'atteindre son triomphe total. Les prérogatives de la citoyenneté, la protection fournie par les documents qui consignent les droits de résidence, toutes ces choses vont être utilisées comme des privilèges politiques. Des démagogues intolérants, surgis de l'intérieur de nos démocraties établies, vont, très bientôt, commencer à exiger des tests, des connaissances, de langue, de comportement, pour décider si tous ces migrants désespérés qui viennent débarquer méritent ou non l'identité britannique, hollandaise ou française. Cela se fait déjà dans cet admirable nouveau siècle. Dans cet admirable nouveau siècle, nous allons regretter les tolérants, les marginaux, le peuple des marges, the edge people. Il est possible que Clastres n'ait pas été spécialement tolérant, mais il appartenait sans aucun doute au peuple des marges à plus d'un titre. En fait, nous sommes tous susceptibles d'être confrontés à un moment ou à un autre, en réalité à chaque moment, à devoir choisir entre devenir indien, habiter les marges, vivre aux limites de la clôture, il n'est pas nécessaire d'aller dormir dans les bois pour cela, c'est d'autres choses qu'il s'agit, ou demeurer dans les centres fortifiés, confortablement identifiés aux colonisateurs. Une question, comment dire, de goût.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges. Les mêmes sons dans la hesse, les mêmes manges. Les mêmes menteurs trafiquent les mêmes comptes. Les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés. Les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé, tous ceux que j'ai cités ont été condamnés.
Ouais, je peux peut-être commencer. Donc pour notre premier groupe de lecture nocturne, le soleil est déjà couché depuis longtemps, mais c'est encore à peu près l'heure entre chien et loup, l'heure des coyotes, des lectures coyotes. Donc après avoir lu ensemble Pierre Clastres, nous passons maintenant à James C. Scott. On avait déjà eu dans la lecture de Pierre Clastres la question de l'agriculture, de... notamment enfin de l'agriculture qui était présente. Et peut-être que le lien pourrait être qu'une question importante chez James C. Scott, c'est vraiment l'aménagement du territoire, l'aménagement des milieux de vie, des paysages qui seront en question, et notamment énormément piloté par l'État. Et donc, c'est toute une critique qu'il développe dans son œuvre. Et donc, on passe un peu peut-être de l'État comme force d'organisation sociale chez Pierre Clastre, forme d'organisation aussi économique, à un aménagement plus large, je dirais, des milieux, pour faire une sorte de transition. Donc, nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers États, Against the Grain, qui a valeur presque de slogan et qui nous rappelle aussi le à rebours de Huysmans, donc qui nous intéresse aussi dans cette manière de remonter le temps et de remonter l'histoire pour faire surgir des contre-histoires, en tout cas l'histoire dominante. Ce soir, on va arpenter ensemble l'introduction qui est une sorte un peu d'état des lieux et qui offre une bonne perspective sur la suite de tout ce livre.
Against the Grain, Introduction, A Narrative in Tatters, What I Didn't Know. How did Homo sapiens sapiens come so very recently in its species history to live in crowded, sedentary communities packed with the domesticated livestock and a handful of cereal grains governed by the ancestors of what we now call states? This novel ecological and social complex became the template for virtually all of our species record history, vastly amplified by population growth, water and draft power, sailing ships and long distance trade. This template prevailed for more than 6 millennia until the use of fossil fuels. The account that follows is animated by a curiosity about the origin, structure, and consequences of this fundamentally agrarian ecological complex. The narrative of this process has typically been told as one of progress, of civilization and public order, and of increasing health and leisure. Given what we now know, much of this narrative is wrong or seriously misleading. The purpose of this book is to call that narrative into question on the basis of my reading of the advances in archaeological and historical research over the past 2 decades. The founding of the earliest agrarian societies and states in Mesopotamia occurred in the latest 5% of our history as a species on the planet. And by that metric, the fossil fuel era beginning at the end of the 18th century represents merely the last quarter of a percent of our species history. For reasons that are alarmingly obvious, we are increasingly preoccupied by our footprint on the Earth's environment in this last era. Just how massive that impact has become is captured in the lively debate swirling around the term Anthropocene, coined to name a new geological epoch during which the activities of humans became decisive in affecting the world's ecosystems and atmosphere. While there's no doubt about the decisive contemporary impact of human activity on the ecosphere, the question of when it became decisive is in dispute. Some propose dating it from the first nuclear tests, which deposited a permanent and detectable layer of radioactivity worldwide. Others propose starting the Anthropocene clock with the Industrial Revolution and the massive use of fossil fuels. Measured by the roughly 200,000-year span of our species, then, the Anthropocene began only a few minutes ago. I propose an alternative point of departure that is far deeper historically. Accepting the promise of an Anthropocene as a qualitative and quantitative leap in our environmental impact, I suggest that we begin with the use of fire. Evidence for the use of fire is dated at least 400,000 years ago, and perhaps much earlier still, long predating the appearance of Homo sapiens. Permanent settlement, agriculture, and pastoralism appeared about 12,000 years ago, mark a further leap in our transformation of the landscape. If our concern is with the historical footprint of hominids, one might well identify a thin Anthropocene long before the more explosive and recent thick Anthropocene. The other decisive pre-mortem invention was institutional, the state. The first states in the Mesopotamian alluvium pop up no earlier than 6,000 years ago, several millennia after the first evidence of agriculture and sedentism in the region. No institution has done more to mobilize the technologies of landscape modification in its interest than the state. A foundation question underlying state formation is how we, Homo sapiens sapiens, came to live amid the unprecedented concentrations of domesticated plants, animals, and people that characterizes the state. The first evidence of cultivated plants and of sedentary communities appears roughly 12,000 years ago. Until then, that is to say, for 95% of the human experience on Earth, we lived in small, mobile, dispersed, and relatively egalitarian hunting and gathering bands. Hunting and gathering, but no, I like haunting good. And gathering too. These raw facts trouble the version of human prehistory that most of us, I include myself here, have unreflectively inherited. Historical humankind has been mesmerized by the narrative of progress and civilization as codified by the first great agrarian kingdoms. As new and powerful societies, they were determined to distinguish themselves as sharply as possible from the populations from which they sprang, and that still beckoned and threatened at their fringes. Agriculture, it held, replaced the savage, wild, primitive, lawless, and violent world of hunter-gatherers and nomads. Fixed-field crops, on the other hand, were the origin and guarantor of the settled life, of formal religion, of society, and of government by laws. Once the basic assumption of the superiority and attraction of fixed field farming over all previous forms of subsistence is questioned, it becomes clear that this assumption itself rests on a deeper and more embedded assumption that is virtually never questioned. And that assumption is that sedentary life itself is superior to and more attractive than mobile forms of existence and of subsistence. The place of the domus and of fixed residence in the civilizational narrative is so deep as to be invisible. Fish don't talk about water.
Ces lieux de confinement, Athènes, Barcelone, Lisbonne, Paris, Coyote considère qu'il est temps de revoir les classiques, c'est-à-dire les concepts fondamentaux de la politique occidentale, dans un geste de décolonisation permanente. Souveraineté, monnaie, État. État, marché, raison. La sainte trinité de l'homme moderne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la théologie capitaliste, comme l'écrit Eduardo Viveiros de Castro. L'État, par le canal d'un récit historique, s'est arrogé le droit de s'imposer comme la forme ultime d'organisation politique, en contrant la possibilité d'élaborer une critique ontologique envers lui, jugée d'emblée absurde, irréaliste, en criminalisant des formes et des expériences politiques autres, un état altéricide. Autorisons-nous à rêver à d'autres réalités possibles, en regardant ailleurs, vers d'autres formes d'organisation collective, plus discrètes, opaques, temporaires, des espaces fragmentaires, en fera politique.
Saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste. Quem não vacila, mesmo derrotado. Quem já perdido nunca desespera e envolto em tempestade decepado entre os dentes segura a primavera.
L'État contre la critique, l'État critique.
L'État contre la critique, l'État critique.